Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Betza, page 11, Daf Yud Alef. Bonne écoute et bon limoud.
Rebbi Amar Lecha, par contre Rebbi qui discute avec Chachamim et pense que dans le cas de deux sacs attachés, il est possible qu'une personne ait pris un seul des sacs, parce que Zim Kisin Nami, même à propos des sacs, Zimnin de Mitakel, nous passons à Daf Yudalef Amudalef, qui trahit, il y a très bien une possibilité que le nœud se soit détaché pour une raison ou une autre, et donc la personne qui est venue a trouvé un seul des les sacs détachés, et c'est pourquoi il est possible qu'il ait pris un seul des sacs. Donc là, nous avons expliqué une des versions de la machloket entre Rebbi et Rabbanan. Par contre, selon la deuxième version, soit si nous avons les deux pièces dans un seul sac, soit si nous avons les deux pièces dans deux sacs qui sont attachés, voilà, soit Rebbi, soit Rabbanan sont d'accord que nous disons que la personne qui est venue a pris les deux pièces en même temps, soit dans un sac, soit dans les deux sacs. Par contre, dans le cas où il y a deux sacs qui sont séparés, alors là, les Rabbanan disent toujours que nous disons que la personne qui a pris cet argent a pris les deux sacs, donc l'argent que nous trouvons ici est entièrement chouline. Par contre, selon l'avis de Rebbi, nous disons que un seul des sacs a été enlevé, le deuxième reste Maaser Sheni. À propos des oiseaux ou des pigeonneaux, soit s'ils sont attachés, soit s'ils sont détachés, nous dirons toujours qu'un est pu partir tout seul et les autres sont restés sur place. Nous avons fini le shiur de Betzada Fiut. Nous commençons le shiur de Betzada Fiut Aleph. L'Agmara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Betor haken umatzalifine haken asuri ». S'il a désigné des pigeons dans le pigeonnier, donc dans leur nid, et puis les a retrouvés le lendemain matin en dehors du pigeonnier, en dehors du nid. Bon, la Mishnah dit que les pigeons sont assourds parce que nous craignons que les pigeons qui étaient dans le nid ont quitté le pigeonnier, et puis ce sont des autres pigeons qui viennent de l'extérieur. Alors la Gemara demande, « Lema mesaye ale le Rabbi Hanina » Peut-être que cette Mishnah est une preuve pour l'enseignement de Rabbi Hanina. « De'amar paskadi Rabbi Hanina » Rov vekarov. Si nous avons deux manières de pouvoir déterminer la nature d'une chose qui se contredisent, une manière qui est par rapport à la majorité des choses environnantes, la deuxième manière est de déterminer la nature de cette chose par rapport aux autres choses qui sont à proximité. Halach acharov, donc Rabbi Hanina enseigne que c'est la majorité qui l'importe, c'est la majorité qui c'est par la majorité que nous déterminerons la nature de cette chose. Là aussi dans notre Mishnah, nous avons une possibilité de déterminer la nature de ces pigeons par la proximité, en disant que ce sont les pigeons, puisque nous trouvons le pigeon sur l'espèce de petit balcon à l'extérieur du pigeonnier, nous pouvons très bien dire que ces pigeons viennent du pigeonnier. Nous avons aussi une deuxième possibilité de déterminer la nature de ces pigeons, en disant qu'ils font partie de la majorité des pigeons, qui eux sont mouktés, puisqu'ils n'ont pas été préparés. Alors nous voyons dans cette Mishnah que ces pigeons sont interdits, parce que c'est la majorité des pigeons qui détermine la nature des pigeons, à propos desquels nous avons un doute. Alors l'Agma répond, Amar Adi Abaye, Bedaf, ici il ne s'agit pas de, dans le cas où il n'y a qu'un seul petit balcon à l'extérieur du pigeonnier, mais il y a une grande planche, et là-dessus se pose, dans beaucoup de cas, ou beaucoup de fois, des pigeons venant de l'extérieur, donc finalement, même les pigeons de l'extérieur, faisant partie de la majorité des pigeons étant mouktés, sont aussi proches des pigeons trouvés à l'extérieur du pigeonnier. Et donc finalement, c'est évidemment la majorité qui détermine, c'est par la majorité que nous déterminerons la nature de ces pigeons. Puisque finalement, même dans ce qui est à proximité, nous avons une majorité de pigeons mouktés. Rava Amar propose une deuxième interprétation de la Mishnah. Meshne kinim zu le mala mizu askinan. Il s'agit d'un pigeonnier où il y a deux étages, donc ayant un nid en dessous et un nid à l'étage supérieur. Velomi, Rashi insiste sur le fait qu'il faut lire aussi dans la Gemara Velomi Vaya, et la Mishnah nous enseigne non seulement dans le cas où Zimen Batartona Velo Zimen Bailiona, dans le cas où il a désigné les pigeons de l'étage inférieur et n'a pas désigné les pigeons de l'étage supérieur, ou Matsa Batartona et a découvert les pigeons à l'extérieur du nid inférieur, Velo Matsa Bailiona et n'a pas trouvé de pigeons dans le nid supérieur. Voilà, puisque finalement nous voyons que les deux couples de pigeons ont bougé de place, puisque même les pigeons supérieurs ne se trouvent plus à leur place, alors il est évident que la Mishnah déassiran, que la Mishnah interdira ces pigeons, pas à cause d'un doute, pas parce qu'on craint que ces pigeons puissent venir de l'extérieur, mais parce qu'on craint que Déamrinan, Hana Chazul Alma, parce qu'on craint que les pigeons inférieurs qui ont été désignés se sont envolés du nid, Behanach, Ishtarvu Venachut. Et les pigeons supérieurs se sont glissés et sont descendus vers le bas. Puisque, comme nous le verrons plus loin dans la Gemara, il ne s'agit pas de pigeons, mais de jeunes pigeonneaux qui peuvent à peine sautiller. C'est pourquoi donc la Mishnah s'exprime de cette manière. Et en fait, il est beaucoup plus facile pour des pigeons de descendre. Et donc, on pourra vraiment craindre que ce soit des pigeons qui viennent de l'étage supérieur. Et là, filouzimen ba'eliona, velozimen ba'tartona, mais même dans le cas où il aurait désigné les pigeons de l'étage supérieur et n'aurait pas désigné les pigeons de l'étage inférieur, ou ba'o matza ba'eliona et a trouvé des pigeons à l'extérieur du nid supérieur, velo matza ba'tartona, et n'a pas trouvé de pigeons à l'étage inférieur, hanach ami assiré quand même, nous interdirons les pigeons d'Amridan, parce que nous pourrons dire Hanach Hazlul Alma, que les pigeons qui ont été désignés, donc de ceux de l'étage supérieur, se sont envolés du nid, Vehanach Seruche Salik Sarich Vesaliku. Et ceux de l'étage inférieur se sont efforcés de sautiller pour se glisser ou se hisser vers l'étage supérieur. Bien que ce soit difficile pour eux, puisque comme nous venons de le dire, il s'agit de pigeonneaux qui ne savent pas encore voler, ils ont juste la possibilité de sautiller, quand même, nous craindrons que ce soit les pigeons inférieurs, et donc même dans ce cas, la Mishnah interdira. Et donc en fait, il ne s'agit pas du tout d'un risque que des pigeons soient venus de l'extérieur, mais il s'agit de pigeons, du risque de pigeons du même pigeonnier se soient glissés à cet endroit. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit Vemen Sham Elahen Arelu Mutarim. Donc c'est la suite de la halakha précédente qui dit que s'il n'y a que ces pigeons dans les environs, alors nous dirons qu'ils seront permis. L'Agma demande Hechidami, dans quel cas il s'agit? Il est Mabem Furachim, si tu veux me dire qu'il s'agit de pigeons qui savent voler. En fait, comme Rachid l'explique plus loin dans Dafrav Dalet, il n'y a pas de problème de Tseda, qui veut dire la chasse, avec des pigeons domestiques, comme il s'agit ici de pigeons domestiques. Parce qu'en fait, il est très facile de les attraper, on n'a pas besoin de filet pour les attraper. Alors, en tout cas, si tu veux me dire qu'il s'agit de pigeons qui savent voler, donc de grands pigeons, Ika lememar, hana chazlul alma, on peut très bien dire que ceux qui étaient dans ce pigeonnier sont partis vers l'extérieur, et ceux-là sont des autres, puisqu'ils peuvent venir même de très loin. Donc pourquoi la Mishnah nous dit que si c'est le seul pigeonnier des environs, ces pigeons seront permis? Et là, c'est pourquoi la Gemara explique, bemedadim. Il s'agit ici de jeunes pigeonneaux qui ne savent pas encore voler, ils savent juste sautiller. C'est pourquoi, donc, s'il n'y a pas de pigeonnier dans les environs, nous savons très bien qu'il ne peut pas arriver de l'extérieur. La Gemara demande, s'il y a un pigeonnier dans un rayon de 50 coudées autour de ce pigeonnier, ils peuvent très bien sautiller et marcher d'arriver d'un pigeonnier à un autre. Et s'il n'y a pas de pigeonnier dans un rayon de 50 coudées, pshita de mutarim. Il est évident que ces pigeons seront permis. La Mishnah n'a pas besoin de nous enseigner, puisque finalement, il n'y a aucun risque. On ne peut pas craindre que ces pigeons viennent d'ailleurs. Ces pigeonneaux viennent d'ailleurs. D'amar, parce qu'a dit Maroukva Barhama, Kol Hamedada, tout pigeonneau, donc qui ne peut pas voler, mais a juste la possibilité de sautiller, En Medada Yoter Mihamishimama, n'a pas dans ses habitudes de sautiller plus que. Sur plus d'une distance plus grande que 50 coudées. Donc jusqu'à 50 coudées, elle sautille, sinon elle a peur de s'éloigner trop de son nid. L'Agma répond, le olam de ikaken betor hamishimama. Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit ici dans un cas où il y a un pigeonnier dans un rayon de 50 coudées, ou que gon de kaima bekeren zavit. Mais il s'agit dans un cas où un angle d'une maison sépare les deux pigeonniers, de manière à ce qu'un pigeonnier ne peut pas être aperçu de l'autre. Alors, ma ou de tema, adedou et adedou, j'aurais pu croire que puisque finalement les deux pigeonniers sont dans un rayon de 50 coudées l'un de l'autre, j'aurais pu croire que les pigeonneaux peuvent sautiller d'un pigeonnier à l'autre. Kamash malam, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que dans un tel cas, nous ne craignons pas qu'un pigeonneau vienne d'un pigeonnier à un autre. Pourquoi? Parce que Kol Hecha de Medada, toujours quand un pigeonneau sautille donc autour de son pigeonnier, Vehadar Chazel le Kane, et quand il se retourne, il voit encore son pigeonnier, Medada, elle continue à sautiller, elle continue à s'éloigner. Veilo, par contre, dès qu'elle ne peut plus voir son pigeonnier, Lo Medada, alors elle s'arrête, elle a peur de s'aventurer plus loin, de peur de ne plus pouvoir retrouver son pigeonnier. C'est pourquoi donc, dans un tel cas, même si le pigeonneau a bougé de son endroit, il n'est plus dans le nid, mais à l'extérieur, quand même, ces pigeons seront permis. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim disent « En notlim et ha'eli le katsev ala basar » On ne pourra pas prendre une espèce de planche creuse au centre qui servait à piler les grains de blé. Et cela pour couper de la viande dessus. Ou Bet Hillel Matirim permettent. Nous avons déjà expliqué que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel était s'il y a un ustensile qui sert à faire une action interdite Yom Tov, l'action de piler, qui est la melacha de Tochen, moudre, est interdite Yom Tov. Alors donc, un ustensile qui sert à ce genre d'action peut être utilisé pour une action permise. Selon Bet Shammai, c'est interdit. Selon Bet Hillel, c'est permis. Deuxième halakha, Bet Shammai Omrim disent, une fois qu'on a fait la shrita d'un animal, en notnim et haor lifne adorsan, on ne pourra pas mettre la peau dans un endroit de passage, qui sert de passage, donc ce qui amènerait les gens à marcher dessus, ce serait un début de tannage. Le fait de tanner une peau est inclus dans la melacha de Me'abed, qui veut dire tanner la peau. Voilà, c'est pourquoi, selon Bet Shammai, on n'aura pas le droit de les poser à un endroit où le tannage pourrait commencer. Velo yakbienu, et on ne pourra pas non plus la soulever pour ne pas qu'elle s'abîme, par exemple. Ela imken yeshimo kezet basar, qu'à condition d'avoir une quantité de un kazaït de viande dessus. Bet Hillel matirim et Bet Hillel permettent donc les deux choses, soit de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage. La Gemara a expliqué plus haut parce que en fait on peut s'asseoir dessus. Il est possible que même des gens s'assoient dessus pendant Yom Tov. Et aussi, on pourra la soulever. Pour la même raison, parce que cette peau, finalement, peut servir de tapis. Alors, l'Agma explique, Tana, il a été enseigné dans une braïta, Veshavin, soit Bet Shammai, soit Bet Hillel qui discutait à propos de savoir si on a le droit de porter une espèce de planche qui servait à concasser le blé, chez Im Katsav Alav Basar, une fois qu'il a coupé la viande donc sur cette planche, chez Assur le Taltelo, en même Bet Hillel sont d'accord qu'on n'aura pas le droit de porter cette planche, parce que finalement cette planche est mouktsée, c'est un ustensile qui sert à faire des actions interdites pendant Yom Tov. C'est pourquoi juste pour faire une action permise pendant Yom Tov, on aura le droit de la porter selon l'avis de Bet Hillel, mais une fois que cette action a été terminée, on ne peut plus la porter pour autre chose. Amar a dit Abaye, Machloket Beili, la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel n'existe que pour une planche qui sert à concasser le blé, aval betabra garmé, mais une planche qui est destinée à couper la viande dessus, divra kol moutar, même Bet Shammai sont d'accord qu'on a le droit de la porter, même qu'il s'agit d'une planche lourde. Nous ne craignons pas qu'il change d'avis, et puis finalement il risque de ne pas vouloir couper de la viande dessus, et il a fait un effort inutile pendant Yom Tov. La Gemara demande, Pshita, c'est évident que la halakha est comme ça, puisque elitnan, la Mishnah nous parle exclusivement d'une planche qui sert à concasser le blé. Donc, mais si c'était une planche qui servait à couper la viande, il n'y a aucun problème, même selon Bet Shammai. C'est permis. L'Agma répond, Mahu de Tema, j'aurais pu penser que Huadin Afilu Tavra Garmi, que Bet Shammai interdit même dans le cas d'une planche à découper la viande. Parce que comme nous l'avons expliqué, nous pourrions dire que Bet Shammai interdit dans un tel cas de peur qu'il vienne à changer d'avis et donc il a fait un effort inutile pendant Yom Tov. Behaï de Katane Eli, et pourquoi? La raison pour laquelle la Mishnah a parlé de la planche qui sert à concasser le blé, Leodiacha Kochan de Bet Hillel. C'est pour nous enseigner la force de l'opinion de Bet Hillel, la filo d'Avar Shemlachto Leissour Namisharu. Donc, pour nous enseigner cette halakha de Bet Hillel, que même dans un cas, non seulement dans un cas où c'est une planche qui n'est pas mouktsée, même dans le cas où cette planche est mouktsée parce que c'est un ustensile qui habituellement sert à une action interdite Yom Tov, quand même, Bet Hillel permet. Kamash Malan, c'est pourquoi Abaye a dû nous enseigner que la machloket n'est que dans le cas d'une planche qui sert à concasser le blé, mais pas dans le cas d'une planche qui sert uniquement à couper la viande. Ika de Amré, il y a une deuxième version sur la réponse de Abaye. Amar Abaye a dit, Lo nitrecha el afilu betavra garme chadete. En fait, ce que je voulais enseigner comme chidouche, c'était même dans le cas d'une planche à couper, qui sert à couper la viande, neuve. Maou Yotema, j'aurais pu croire, Mimlach velotavarala, que Bethilel interdit dans tel cas, parce qu'on craint qu'il change d'avis, il ne voudra pas couper dessus, parce que peut-être il ne veut pas l'abîmer pour pouvoir encore l'utiliser pour autre chose. Et donc finalement, il se trouve qu'il a fait un effort pour rien pendant Yom Tov. Kamash Malan, c'est pourquoi Abaye nous enseigne que Beth Shammai permette, ils ne craignent pas qu'il change d'avis. La Gemara demande, ou Beth Shammai lo chayshe le mlouche, est-ce que Beth Shammai ne craignent pas qu'une personne change d'avis et donc ne font aucun décret à ce sujet? Vatania, voici que nous voyons dans une braïta, Beth Shammai omrim disent, en molichim tabach vesakin etzel behema, on ne pourra pas amener ou le shochet avec son couteau vers la bête pour lui faire la shrita. Velo behema etzel tabach vesakin, on n'amènera pas non plus la bête chez le shochet avec qui a le couteau chez lui, de peur qu'il change d'avis, et donc il a ou bien emmené la bête ou le couteau pour rien, c'est un effort inutile pendant Yom Tov. Voir le Bet Yosef, Siman Tzav Tzadichet. Ou Beth Hillel Omrim disent, Molichin Ze et Tel Ze, on peut emmener l'un vers l'autre, on ne craint pas qu'il change d'avis. Beth Shammai Omrim disent, En Molichim Tavlin ou Madoch et Tel Meducha, on ne pourra pas emmener ni les épices, ni le pilon vers le mortier, pour pouvoir piler les épices. Velo Meducha et Tel Tavlin ou Madoch, on ne pourra non plus pas emmener le mortier vers les épices ou le pilon pour s'en servir de piler les épices. Pourquoi? Là aussi, de peur qu'il risque de changer d'avis, comme la Gemara expliquera plus loin, et donc ne pilera pas ses épices, ce sera un effort inutile pendant Yom Tov. Ou Beth Hillel Omrim disent, Molichim Zeh Etzel Zeh, on peut emmener l'un vers l'autre, on ne craint pas qu'il change d'avis. Donc nous voyons que Beth Shammai font des décrets parce qu'ils craignent qu'une personne change d'avis. Alors pourquoi dans le cas d'une planche qui sert à découper la viande, pourquoi est-ce que Beth Shammai là-bas ne craignent pas qu'il change d'avis? La Gemara répond, Hachi Ashta. Voyons voir. Bishlama Behema Atelim Luche. On comprend bien qu'à propos d'une bête, il risque de changer d'avis. Damar Nishbak Hai Behema Krusha. Parce qu'il risque de dire, je laisserai cet animal qui est finalement maigre. Ou Maitina Behema Chrite de Shmenamina. Et j'en emmènerai une autre qui est plus grosse, plus grasse. Donc finalement, quand il a amené la bête ou le chochet vers l'animal, ou l'un vers l'autre, il se trouve que finalement, il change d'avis parce qu'il voudra employer une autre bête. Kederanami. À propos de le plat qu'il veut faire, donc il nécessite des épices, aussi on peut dire la même chose, Atelim Luché, il risque de changer d'avis. Damar Nishbak Hagdera de Baya Tavlin, je laisse tomber ce plat qui a besoin de telle et telle épice, ou Maïtina Achite de l'Obaya Tavlin, et j'emploierai un autre plat qui ne nécessite pas d'épices. Donc finalement, il risque de changer d'avis et d'avoir porté le pilon, le mortier ou les épices pour rien. Haha, Maïka le Memar, mais si, qu'est-ce que tu veux dire à propos de la planche qui sert à découper la viande? Mimlach velotavar, est-ce qu'il changera d'avis et ne coupera pas la viande? Kivan de Shachta, puisqu'il a déjà fait la shrita, donc il a un animal mort devant lui, les Tvira Kaima, il est obligé de couper la viande, donc il n'y a aucune raison de craindre qu'il change d'avis. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Beth Shammai omrim, en notnim et taor, etc. Beth Shammai interdisent de déposer la peau provenant d'une bête dont on a fait la shrita Yom Tov dans un endroit qui sert de passage. Tana. Il y a une Breta qui nous enseigne, Veshavim, même Beth Shammai sont d'accord que Shemolchim, Alav Bassar Letzli, qu'on pourra saler sur cette peau de la viande légèrement pour pouvoir la griller sur le feu. Nous savons que pour consommer de la viande après la shrita, il faut la saler pour en extraire le sang. Le sang est interdit à la consommation. Quand là, par contre, si on la grille sur le feu, théoriquement on n'a pas besoin de la saler, mais l'habitude est de la saler légèrement. Alors là, même Beth Shammai permettent qu'on peut saler la viande légèrement pour pouvoir la griller sur le feu, et cela sur cette peau qui provient de la bête dont on vient de faire la shrita, et cela même qu'un peu de sel tombera sur la peau, et donc ça risque de commencer le tannage, quand même Beth Shammai n'interdisent pas. Amar a dit Abaye, l'oshanu el aletzli. Quand la Breta nous enseigne qu'on a le droit de saler de la viande sur cette peau, ne nous permet que de la saler légèrement pour pouvoir la griller sur le feu. Aval l'igdera, mais la saler abondamment pour pouvoir la cuire. Donc en fait, on la sale bien comme il faut pour en extraire entièrement le sang. Là, ce sera interdit parce qu'il est évident qu'il y aura beaucoup de sel qui tombera aussi sur la peau. Et donc là, c'est un commencement de tannage. La Gemara demande, Pita, il est évident puisque l'etlitnan, la Breta nous enseigne explicitement qu'on peut saler la viande légèrement pour la griller sur le feu. La Gemara répond, Hakamashmalan, Abaye a voulu nous faire entendre, Dafilu l'etliken kedera asur, que même s'il sale cette viande dans l'intention de la griller sur le feu, mais il la sale abondamment, presque comme s'il voulait l'utiliser pour la faire cuire dans une marmite, ce sera quand même interdit, parce que quand il met beaucoup de sel, ce sera sûr que le tannage commencera. Là, comme nous avons expliqué dans la Mishnah, c'est une interdiction qui est comprise dans le Av Melacha de Me'abed, qui veut dire tanner la peau. Tanur Rabbanan. Nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. En molchim et achalavim. On n'a pas le droit de saler les graisses. Il s'agit ici de graisses interdites à la consommation. Et donc, c'est des graisses qui servent, par exemple, comme combustible ou autre. Et donc, ces graisses sont mouktées et ça s'appelle tanné. Ce n'est pas comme saler de la viande, puisqu'elle est destinée à la consommation. Donc, on ne sale pas pour la garder longtemps. Là, c'est donc permis. Il n'y a pas de problème de me'abed. Ben me'aprin bahen. Et on ne pourra pas non plus les retourner pour laisser la partie inférieure à l'air de manière à ce qu'elle ne s'abîme pas, parce que cette graisse est mouktée. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, il a été dit au nom de Rabbi Yoshua, Shotran Baruach Al-Gabe et Tedot, on pourra étendre les graisses sur des espèces de piquets pour les aérer de tous les côtés qu'elles ne s'abîment pas. Amar Adir Avmatna Halacha Ki Rabbi Yoshua, l'Halacha est comme Rabbi Yoshua, on pourra transporter les graisses et les étendre sur des piquets. Ikadamre, il y a une deuxième version qui dit, Amaradi Rav Matna, En halacha ki Rabbi Yeshua, la halacha n'est pas comme Rabbi Yeshua, et ses graisses sont mouktées, on ne pourra pas du tout les toucher pendant Yom Tov. La Gemara demande, Bishlama leman d'Amar, halacha ki Rabbi Yeshua, on comprend bien l'avis qui dit, la version qui dit que Rav Matna a enseigné que la halacha était comme Rabbi Yeshua. Alors, Itztarir, on a besoin de son enseignement. Sam Kadata Chamina, j'aurais pu penser que Yachid Verabim, halacha ki Rabbim, quand on a une discussion entre une seule personne, et plusieurs personnes. Alors l'halakha est censé être comme l'avis de la majorité, et donc nous aurons pu penser qu'il est évident que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yeshua qui est une seule personne. Kamash Malan, c'est pourquoi Rav Matna a eu besoin de nous enseigner que l'halakha qui arrive, que dans ce cas, l'halakha est comme la personne qui est toute seule. Et là, le mandamar en halakha, mais selon l'avis qui dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yeshua, pshita. Il est évident pourquoi est-ce que Rav Matna a eu besoin de nous le dire. Yachid berabim, halakha kerabim. Parce que finalement, quand nous avons une discussion entre une personne seule et un groupe de plusieurs personnes, la halakha est comme la majorité, donc comme le groupe de personnes. Magma répond, Maud etema mistaber tamé de Rabbi Yeshua. En fait, Rav Matna a eu besoin de nous enseigner que la halakha n'est pas comme Rabbi Yeshua. Parce que j'aurais pu penser que, en fait, il sera logique. L'avis de Rabbi Yeshua est logique. Des îles au charitlé, parce que si tu ne lui permets pas de s'occuper des graisses pour ne pas qu'elles s'abîment, mimna velo charit, il risque de s'abstenir et de ne pas faire la shrita, donc cela viendra entraver sa joie de Yom Tov, et c'est pourquoi on pourrait dire que le chachamim ont permis d'étendre les graisses sur des piquets. Kamash malan, c'est pourquoi Rav Matna a eu besoin de nous enseigner, selon la deuxième version, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. La Gemara demande, Umay shana me'or lifna dursan, quelle est la différence entre les graisses et notre Mishnah où Beth Hillel nous a enseigné qu'on a le droit de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage. Nous tournons la page à Daf Yudalef Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Dans un endroit qui sert de passage, nous tournons la page à Daf Yudalef Amud Bet. La Gemara répond, Hatam lomuchamilta. Dans le cas de notre Mishnah où on permet de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage, il n'est pas évident qu'il le fait pour des raisons pour vouloir tanner la peau. Pourquoi? Mishum de chazem isgaale. Parce qu'en fait, il peut se servir de cette peau en tant que tapis tel quel et on peut s'asseoir dessus. Haha, par contre, ici dans le cas des graisses, puisqu'on ne peut pas s'asseoir dessus, atelememar, il risque de la personne risque de dire « Maïtama Sharuli Rabbanan, pourquoi est-ce que les Chachamim m'ont permis d'exposer ces graisses à l'air ?» Qui est écrit de l'Olisrach pour ne pas que ces graisses s'abîment. Mali le Mishtechinu, Mali le Mimlechinu. Quelle différence y a-t-il entre le fait de les étendre à l'air et de les saler? Il risque donc de les saler, et là c'est une melacha interdite mina Torah, parce qu'il sale les graisses pour les conserver. Et donc c'est inclus dans la melacha de Mehabet, qui veut dire tanner la peau ou autre chose pour le conserver. Amar a dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Si quelqu'un a fait la shrita d'une bête et n'a pas besoin de manger toute la viande, la viande donc qui reste risque de s'abîmer jusqu'après Yom Tov. Alors Moleach Adam Kama Chatichot Basar Bebatachat. Une personne peut saler plusieurs morceaux de viande en même temps, c'est-à-dire en apposant les morceaux l'un à côté de l'autre, et avec une poignée de sel, il salera tous ces morceaux de viande. Afalpi Shenotzarich El Al Chatichachat, bien qu'il n'a besoin que d'un seul morceau, et puis après, il retourne ces morceaux de viande, ce qui n'est pas un grand effort. Et puis après, avec une autre poignée, il salera le reste des morceaux de viande. Par contre, s'il a plus de viande que cela, et donc il a besoin, par exemple, de mettre plusieurs fois du sel pour recouvrir tous les morceaux de sel, puisqu'il fait un effort inutile pour Yom Tov, il n'aura pas le droit de le faire. Et cela, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction de Me'abed, qui veut dire tanné, pour de la nourriture. Donc après avoir salé ces morceaux de viande, il en prendra un seul et le rincera, et le reste restera salé jusqu'après Yom Tov. Cela est l'explication du Mishnah Bura, Siman Tavkouf, sur le Seifé. Rava Dabara Hava, Maharim, avait recours à une ruse, ou Malach Garma Garma. Il avait l'habitude de saler morceau par morceau. En salant le premier morceau, il disait donc qu'il le faisait pour Yom Tov. Après, il se disait, en fait, ce morceau ne me plaît pas, je voudrais le deuxième morceau, etc. Il salait comme ça toute la viande. Donc là, il permettait plus que Rabbi Yehuda ben Shmuel. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim disent En mesalkim et atrisim yom tov. On ne pourra pas démonter les volets pendant Yom Tov. Cela parce que nous avons vu plus haut d'Afiud que Bet Shammai pense qu'il y a une interdiction de construire ou de détruire, même à propos de choses mobiles, donc à propos d'ustensiles. Donc il y a une interdiction minatora. Ou Bet Hillel Matirim permettent à Flarzir, même non seulement de démonter les volets, mais aussi de les remonter, parce que la Gemara avait expliqué que Bet Hillel pense qu'à propos des choses mobiles, il n'y a pas d'interdiction de détruire ou de reconstruire. La Gemara demande Maitrissim, de quel volet s'agit-il? La Gemara répond Amar Adi Oula, Trisser Hanouyot, il s'agit ici de volets bloquant l'entrée des kiosques mobiles, dont les vendeurs se servent après en tant qu'étalage. Ve'amar et Adi Oula. Shloshat Varim, à propos de trois halachot, Hitiru Sofan Mishum Trilatam. Les Chachamim ont permis la phase finale à cause de la phase initiale. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il n'y avait aucune raison d'interdire cette action en question que les Chachamim l'ont permise, mais à cause pour ne pas décourager les gens de faire une action qui précède. Alors, comment expliquera? Ve'elohen, voici les trois choses que Oula, à propos desquelles Oula a fait allusion. Or, l'ifne adosal, la première halakha, c'est ce qu'on a vu plus haut, le fait de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage. Utrise chanouyot, la deuxième halakha, c'est la halakha de notre Mishnah, qui parle des volets des kiosques. La troisième halakha est bachazara dretia bamigdash, le fait de replacer un pansement dans le Beit HaMikdash. Il s'agit ici d'un Kohen qui s'était blessé, par exemple, à la main, et donc s'était mis un pansement. Pour effectuer un travail, un service dans le Beit HaMikdash, cela pose un problème de chatzitza, il devait donc l'enlever. Les Chachamim lui ont permis même de remettre ce pansement après avoir effectué le service, pour l'encourager à accepter de faire le service et d'enlever donc le pansement pour cela. Il s'agit bien sûr d'un Shabbat ou de Yom Tov. Verachva Amar Rabbi Yehuda, a dit au nom de Rabbi Yehuda, qui est en fait son maître, donc Rabbi Yehuda, dit qu'en fait il y a une quatrième halakha à propos de laquelle nous disons que l'action finale a été permise à cause de l'action initiale. Il s'agit ici d'halakhot d'impureté, où les Chachamim ont décrété que les ignorants étaient considérés comme étant impurs, parce qu'ils ne connaissent pas bien les halakhot d'impureté, et donc ne peuvent pas les accomplir entièrement. D'ailleurs, c'est des halakhot qui sont très compliqués. Par contre, pendant les fêtes, les Chachamim ont levé cette interdiction, pour ne pas qu'il y ait de tensions inutiles et pour ne pas décourager les ignorants à venir au pèlerinage à Yerushalayim. Alors là, l'alakha est af. Donc même à propos de cette alakha qui dit que hapoter chavito, celui qui le chaver, qui est la personne qui observe scrupuleusement les lois de l'impureté, qui commence à, qui ouvre un tonneau de vin pour le vendre au détail aux gens qui montent à Yerushalayim pour les fêtes, ou matril beisato, et celui qui commence à produire une pâte et donc du pain aussi pour les vendre aux gens qui viennent à Yerushalayim. Donc celui qui le fait à Al-Gabaregel pendant la période des fêtes, bien que ces choses, donc ce vin ou ce pain, a été touché par des ignorants, donc des personnes impures, puisque pendant les fêtes, nous considérons ces personnes comme étant pures, il pourra continuer à les vendre le reste après la fête, même à des gens, à des chavérim, des personnes qui font scrupuleusement attention aux lois de l'impureté. Valiba de Rabbi Yehuda, et cet enseignement, selon l'avis de Rabbi Yehuda, d'Amar Igmo, qui dit que dans le cas où il lui reste du vin ou du pain après la fête, il pourra continuer à le vendre après la fête. Donc Rahba nous enseigne que la raison pour laquelle on lui permet de vendre le vin après la fête, ce n'est pour ne pas le décourager à ouvrir un tonneau de vin ou commencer à produire du pain pendant la fête, et donc il y aura assez à manger pour tout le monde, il y aura assez de nourriture proposée à la vente. La Gemara demande, Or lifne adorsan tanina. En fait, pourquoi est-ce que Oulah a besoin de nous enseigner que la raison pour laquelle le fait de déposer la peau dans un endroit de passage a été permis selon l'avis de Beit Hillel et parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale? Finalement, c'est écrit ouvertement dans une Mishnah qu'on a vu plus haut. La Gemara répond, Maoud et Tema, j'aurais pu croire que Tamaï de Beit Hillel, la raison pour laquelle Beit Hillel permet de déposer la peau dans un endroit de passage, Mishum de Chazel et Mizga Alayou, parce qu'en fait, cette peau peut servir de tapis, donc il n'y a même pas de... D'abord, cette peau n'est pas mouktée, et peut-être il n'y a même pas d'intention de tannage de la peau. Et si c'est comme ça, va filo me'erev yom tov nami, et donc, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de déposer cette peau n'importe où, alors même à propos d'une peau qui a été déposée avant yom tov, on pourra aussi la déposer à un endroit qui sert de passage. Kamash malan, c'est pourquoi Oulah nous enseignait que hitiru sofan mishum trilatan, la raison pour laquelle Beit Hillel ont permis de déposer la peau dans un endroit de passage, et parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale. Donc, Yom Tov in, la peau déposée par Yom Tov peut être déposée dans un endroit de passage pour ne pas décourager les gens à faire la shrita d'une bête pendant Yom Tov de peur que la peau vienne s'abîmer. Et donc, finalement, cela entraverait la joie de Yom Tov. Par contre, Erev Yom Tov, l'eau, une peau qui a été déposée avant Yom Tov, ne pourra pas être déposée dans un endroit de passage, parce que cela ne sert pas justement à la joie de Yom Tov, puisqu'il peut il peut s'occuper de la peau bien avant Yom Tov, et donc s'il lui arrive d'avoir une peau déposée avant Yom Tov, il ne pourra pas la déposer dans un endroit de passage. La Gemara demande, Drisse Chanouyot Namitanina, pourquoi est-ce qu'Oulah a besoin de nous enseigner que la raison pour laquelle les Beit Hillel ont permis même de remonter les volets, c'est parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale? C'est écrit ouvertement dans la Mishnah que Beit Hillel permette, ou Beit Hillel matirim af l'arzir. Donc notre Mishnah nous dit que Beit Hillel permette même de remonter les volets. Donc qu'est-ce qu'Oulah nous a rajouté? La Gemara répond, Maoud et Tema, j'aurais pu croire que Tamaï de Beit Hillel Mishum de En Binyan Bekelim, de En Stira Bekelim. La raison pour laquelle Beit Hillel permette de remonter les volets, c'est parce que il n'y a pas d'interdiction de construction à propos des ustensiles, à propos de choses mobiles. Il n'y a pas aussi d'interdiction de destruction pour les ustensiles mobiles. En fait, cela veut dire ici qu'il est vrai que construire entièrement un ustensile est interdit. Cela s'appelle makebe patish. Bien, il y a d'autres sortes d'interdictions qu'il peut y avoir pour construire entièrement un ustensile. Mais pour une petite construction comme remonter un volet ou démonter un volet, là, il n'y a pas d'interdiction minatora. Donc si c'est comme ça, Bafilo de Batimnami, il pourrait même monter ou démonter une porte d'une armoire dans une maison, et cela même si ça ne sert pas spécialement à la joie de Yom Tov. Kamash Malan, c'est pourquoi Oulah nous a enseigné que Hitiru Sofa Mishum Trilatam, la raison pour laquelle Beit Hillel permet de remonter les volets c'est parce que les Chachamim ont permis la phase finale à cause de l'action initiale. Donc en fait, la raison pour laquelle les Chachamim permettent de remonter les volets, ce n'est pour ne pas décourager les vendeurs à donner les épices pendant Yom Tov pour ceux qui en ont besoin et donc d'ouvrir les magasins, parce qu'ils auraient peur, si on leur interdit de remonter les volets, d'être volés pendant Yom Tov. Alors c'est pourquoi des Chanouyot In, les Beit Hillel ont permis de remonter ou même de démonter les volets des kiosques à cause de la joie de Yom Tov. Par contre, des Batim, l'eau. Par contre, les remonter ou démonter des portes d'armoires d'une maison qui ne servent pas spécialement à la joie de Yom Tov, puisque finalement, même s'il n'y a pas d'interdiction Minat Torah, il peut quand même y avoir une interdiction de Rabbanan. C'est pourquoi on n'aura donc pas le droit ni de démonter ni de remonter les portes d'armoires de maison. La Gemara demande, Chazarat Retiav Amigdash Namit Anina. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de nous enseigner que le fait de remettre un pansement dans le Beit Hamikdash a été permis parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale? Voici que c'est écrit ouvertement dans une Mishnah, dans Maseret Eruvin, Machzirim Retiav Amigdash. Le Kohen pourra remettre un pansement dans le Beit Hamikdash s'il l'a enlevé pour effectuer un service de l'offrande d'un korban, aval lo bamdina, mais par contre à l'extérieur du Beit Hamikdash, donc pour une personne simple, ne sera pas permis de remettre un pansement. Et cela parce que il s'agit ici d'un pansement contenant une pommade, et donc il risque de transgresser l'interdiction de Memarek, qui est de lisser un objet, ou même par exemple de la pommade, pendant Shabbat ou Yom Tov. À propos de l'interdiction de prendre toutes sortes de médicaments, voir le Tosfot dans Eruvin Daf Kuf Bet Amud Bet et le Maharam Shiv sur place. En tout cas, qu'est-ce que Oula a eu besoin de nous enseigner que la raison pour laquelle cela a été permis à cause, parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale, puisque finalement c'est écrit clairement dans une Mishnah. La Gemara répond, Maud était major et puis croire Tamamai. Pourquoi est-ce qu'il a été permis de remettre le pansement dans le Beit Hamikdash Mishum de En Shvut Bamikdash? Parce que les interdictions concernant l'arrêt de travail pendant le Shabbat, donc il s'agit ici c'est le nom général des décrets que les Chachamim ont fait à propos des interdictions, des interdits de Shabbat et de Yom Tov, ne s'appliquent pas dans le Beit Hamikdash. Si c'est comme ça, Afilu Kohen de la Baravodahu, même s'il ne s'agit pas d'un Kohen qui peut effectuer un service, mais par de l'offrande d'un korban, mais comme l'explique Lor sa mère sur le Rambam Ilchot Shabbat Perek Rafalef, d'un Kohen par exemple qui enlèverait son pansement pour se laver les mains par exemple pour consommer un korban, qui est aussi une mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah particulière spéciale d'offrir un korban, là aussi les Chachamim lui permettraient de remettre le pansement dans le Beit Hamikdash. Kamash Malan, c'est pourquoi Oula nous a enseigné que Hitiru Sofan Mishum Trilatan, la raison pour laquelle on a permis au Kohen de remettre son pansement, c'est parce qu'on a permis l'action finale à cause de l'action initiale. Alors, nous le permettons que dans le cas particulier des Bar Avodahin, que dans le cas particulier donc d'un Kohen qui effectuera le service d'offrande d'un korban, là les Chachamim lui ont permis de remettre le pansement pour l'encourager à enlever le pansement, à accepter un service de l'offrande d'un korban et enlever le pansement. De la Vavoda, Bar Avoda, l'eau. Par contre, s'il s'agit d'un Kohen qui ne peut pas faire le service, mais par exemple, comme nous l'avons expliqué, d'un Kohen qui veut manger la korban, même si c'est une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah aussi importante que le fait d'offrir un korban, l'eau, là, les Chachamim lui ont pas permis de remettre le pansement s'il l'a enlevé pour manger le korban. La Gemara demande, Poteach et Chavito, Namitanina. Pourquoi est-ce que Rahba a besoin de nous enseigner que le Chaver, donc celui qui suit scrupuleusement les halakhot de Touma, qui commence à ouvrir un tonneau pour le vendre au détail pendant la fête, peut continuer à le vendre après la fête parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale. Finalement aussi, c'est écrit dans une Mishnah ouvertement, dans Masechet Chagiga. La Mishnah nous enseigne Hapoter et Chavito. Le Chaver qui ouvre un tonneau pour le vendre au détail pendant la fête, ou Matril Beisato al Gavaregel, ou bien celui qui commence à fabriquer une pâte, donc pour le fabriquer du pain pendant la fête. Il s'agit ici que ce vin ou ce pain a été touché par des ignorants. Alors pendant la fête, nous disons que ce pain ou ce vin sont purs. Maintenant, s'il en reste après la fête, Rabbi Yehuda Omer, Yigmor, il pourra continuer à le vendre même à des chaverim, des personnes qui suivent scrupuleusement les halakhot de Touma, parce que nous disons que cette pâte ou ce vin est pur, sont purs. Les chachamim omrim disent, lo Yigmor, il ne pourra pas continuer à le vendre, dès que la fête se termine, ce vin ou ce pain sont considérés comme étant impurs. Alors finalement, puisque Rabbi Yehuda dit clairement que c'est permis, qu'est-ce que Rahva nous a enseigné? Aïbouza nous a enseigné que la raison pour laquelle il peut continuer à vendre ce vin ou ce pain, c'est parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale. L'Agma répond, Maoud et Tema, j'aurais pu croire que Tumat Amaharet, le décret concernant l'impureté des ignorants, Baregel Ketahara Shavio Rabanan, pendant les fêtes, est considéré comme une pureté, c'est-à-dire les Chachamim ont entièrement levé ce décret pendant les fêtes, et les ignorants pendant les fêtes sont considérés comme étant entièrement purs. Et si c'est comme ça, s'ils ont touché n'importe quoi, va falgav de l'oitril nami, même s'il n'a pas ouvert ce tonneau pour commencer à le vendre, mais par mégarde, un ignorant a touché ce vin, il pourra quand même le vendre après la fête à quelqu'un qui fait scrupuleusement attention aux lois d'impureté. Kamash malan, c'est pourquoi Rahba nous a enseigné que hitiru sofan mishum trilatam, la raison pour laquelle il peut continuer à vendre ce vin ou ce pain après la fête, c'est parce que les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale. Si c'est comme ça, hitril in. S'il a commencé à le vendre, donc il l'a ouvert pour le vendre au détail pour les gens qui viennent à Yerushalayim, il pourra continuer à vendre ce vin ou ce pain après la fête. Lo hitril, lo. Par contre, s'il n'a pas commencé à vendre ce vin ou ce pain pendant la fête, en fait, ça a été touché par un ignorant, même si ce n'était pas destiné à la vente. Alors là, il ne pourra pas continuer à le vendre après la fête. La Gemara demande, Ula Maitama lo Amarha, pourquoi est-ce qu'Ula n'a pas aussi enseigné dans aussi ce dernier cas qui a été enseigné par Arba? Pourquoi il ne l'a pas inclus dans les cas où les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale? La Gemara répond, Bepukta lo Kamayre. Ula n'a pas voulu parler de choses sujet à discussion. En fait, là, Arba a employé a parlé selon l'avis de Rabbi Yehuda, qui est un avis unique, où là, a voulu parler d'une halakha unanime. La Gemara demande, même les cas cités par Oula dépendent aussi d'une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, comme nous l'avons vu dans les Mishnahot plus haut. La Gemara répond, Bet Shammai bimkom Bet Hillel ena Mishnah. Quand nous avons une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, puisque la halakha est toujours comme Bet Hillel, donc l'avis de Bet Shammai n'est pas à prendre en considération quand on parle de la halakha. C'est pourquoi, quand Oula a parlé de cette règle générale, donc de ces trois choses à propos desquelles les Chachamim ont permis l'action finale à cause de l'action initiale, même s'il ne parle que de l'avis de Bet Hillel, en fait, il parle de la halakha acceptée unanimement. La Gemara continue. Matnitin de l'Oki Aitana. Notre Mishnah ne va pas comme l'auteur de la Braïta qui suit, Netanya, parce qu'on nous a vu dans une Braïta, Amar a dit, Rabbi Shimon ben Elazar, Modim, Bet Shammai ou Bet Hillel, soit Bet Shammai, soit Bet Hillel sont d'accord que Shemes Alkim et Atrissim, Beyom Tov, qu'on pourra démonter les volets pendant Yom Tov. Donc là, selon cet avis, Bet Shammai tient qu'il n'y a aucune interdiction de détruire à propos des ustensiles, donc de choses mobiles, pendant Shabbat ou Yom Tov. Et donc aussi, il n'y a aucune interdiction de reconstruire. Leur discussion n'est qu'à propos de savoir si on peut remonter les volets ou non. Chez Bet Shammai Omrim, El Marzirim, on ne pourra pas remonter les volets parce que eux tiennent que les Chachamim n'ont pas permis l'action finale à cause de l'action initiale. Ou Bet Hillel Omrim disent, Af Marzirim, on pourra même remonter les volets. La Braïta continue. Bam et Dvarim Amurim, quand est-ce que ces choses sont dites? Ou selon les différents avis, Bet Shammai a interdit soit de monter, soit même de démonter les volets. Bechesh Lamtir, dans le cas de volets attachés avec des charnières. Aval En Lamtir, mais par contre, s'il s'agit de volets n'étant pas attachés avec des charnières, par exemple une simple planche tenue par une traverse, Divrei Hakol Mutar, selon tous les avis, il sera permis de monter ou de démonter librement ces volets. La Gemara demande, Vatania, voici que nous voyons dans une autre Braïta, Bametvarim Amurim, quand ces choses sont dites, ou selon les différents avis, il est permis de démonter ou soit même de remonter les volets, Peshaïla Mtir, dans le cas de volets n'étant pas retenu par, n'étant pas attaché par des charnières. Aval yesh lahem tzir. Par contre, s'il s'agit de voler étant attaché par des charnières, divra kol asur, selon tous les avis, il sera interdit soit de monter, soit de démonter ses volets. L'agma répond, Amar Abaye. A dit Abaye, en fait, il n'y a pas de discussion entre ces deux braïtotes, chacune parle d'un cas différent. En fait, pour expliquer cette réponse, nous allons expliquer d'abord, en gros, à quoi ressemblaient ces volets de kiosque. D'abord, en premier lieu, il faut savoir que ces volets fermaient la porte unique de ce kiosque, parce que s'il y avait une deuxième porte par laquelle on pouvait accéder à ce kiosque, il n'y avait aucune raison de monter ou de démonter ces volets pendant Yom Tov. Ces volets, donc, en question, une fois démontés, étaient posés sur des tréteaux pour servir d'étalage. Maintenant, les charnières dont on parle ici, il s'agit d'une espèce de pivot qui dépasse de part et d'autre de la porte. Ça peut être soit dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire en haut et en dessous de la porte, qui rentrait dans un trou placé sur le sol, dans le sol de ce kiosque, et dans le plafond de ce kiosque. Et c'est ainsi qu'était fermée cette porte par le moyen d'un cadenas ou autre. Il est à noter ici aussi que cette porte ne pouvait pas pivoter, parce que sinon, encore une fois, il n'y avait aucune raison de monter ou de démonter ces volets. Nous remarquons aussi que selon cette possibilité où ces pivots en question étaient en dessous et au-dessus de la porte, quand ce volet servait d'étalage, donc finalement ces pivots étaient sur le côté de l'étalage. La deuxième possibilité était d'avoir les pivots non pas en dessous et au-dessus de la porte, mais au milieu de la hauteur de la porte, qui rentrait donc dans un trou qui était dans les murs de ce kiosque. Alors donc ces pivots servaient de verrou, et là encore il y avait un cadenas qui fermait le kiosque. Alors maintenant nous reprenons la Gemara. Amar Adi Abaye. Besheyesh laim tzir minatzad, dans le cas de charnière, donc ici nous avons expliqué qu'il s'agit de pivots sur le côté de la porte, c'est-à-dire quand ces volets servent d'étalage, donc en fait il s'agit de pivots en dessous et au-dessus de la porte. Divrei Hakol Asur, selon tous les avis, il sera interdit de monter ou de démonter cette porte, soit selon Beit Shammai, soit selon Beit Hillel. C'est à cette forme de volet que la deuxième Braïta faisait allusion quand elle disait si ces volets sont attachés à des charnières, selon tous les avis, c'est interdit. Alors cela parce que finalement ce volet ressemble à la porte d'une maison, donc cela ressemble beaucoup trop à une forme de bonnet de construction dans une maison, c'est pourquoi ce sera interdit selon tous les avis. En laim tzir kol ikar, dans le cas où il n'y a aucune charnière, divrei Hakol Mutar, selon tous les avis, ce sera permis. Il s'agit ici d'une simple planche retenue par une traverse. C'est à cela que la première Braïta faisait allusion quand elle disait quand il n'y a pas de charnière, selon tous les avis, soit selon Beit Shammai, soit selon Beit Hillel, il sera permis de monter ou de démonter cette porte. Qui pligué, dans quel cas il y a une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, Besheyesh Lahem Tzir Baemtza, dans le cas où la charnière est située au milieu de la porte quand elle est quand elle sert d'étalage, c'est-à-dire il s'agit dans le cas où le pivot est au milieu de la hauteur de la porte et sert de verrou. C'est à cela que la première Braïta faisait allusion quand elle disait que la discussion de Beit Shammai parlait dans un cas où il y avait une charnière, parce qu'effectivement il y a quand même une certaine forme de charnière, et la deuxième Braïta appelle cette même situation le cas où il n'y a pas de charnière, parce que ce n'est pas une charnière habituelle, finalement, la porte ne veut pas du tout pivoter sur ce genre de charnière. C'est en fait une sorte de verrou. Donc là, il y a une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Nous passons à Daf Yudbet Amud Alef. Alors, Mar Savar, l'un pense, il s'agit ici de Beit Shammai. Gazrinan Tzir Baemtza, Atut Tzir Minatzad. Nous décrétons d'interdire de monter ou de démonter le volet où il y a un verrou, ou plutôt le pivot au milieu, de peur qu'on vienne à monter, à démonter le cas où le pivot est sur le côté, c'est-à-dire en dessous et au-dessus de la porte. Parce que comme nous l'avons vu, l'avis de Beit Shammai est que même pour les ustensiles mobiles, il y a une interdiction de construire ou de détruire. Donc c'est pourquoi il y a lieu de faire un décret, une annotation de Pnei Yoshua. Et donc, selon Beit Shammai, même dans le cas où le pivot est au milieu, donc au milieu de la hauteur de la porte, on sera interdit de monter ou de démonter ce volet selon l'avis de notre Mishnah. Umar Savar et l'autre pense, donc Beit Hillel, Logazrinan, on ne décrète pas d'interdire le cas où le pivot est au milieu, de peur qu'on vienne aussi monter ou démonter le cas où le pivot est sur les côtés, c'est-à-dire en dessous et au-dessus de la porte. Parce que nous l'avons vu que selon l'avis de Beit Hillel, en fait, il n'y a pas d'interdiction de construire ou de détruire un ustensile mobile. Et donc, il n'y a pas de lieu de faire un deuxième décret pour interdire le cas où la porte ne ressemble pas du tout ce volet, où cette porte ne ressemble pas du tout à celle d'une maison. Nous avons fini le shiur de Betsa d'Alfud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.